Alors, bon matin tout le monde. On est bien content d'être ici. On est content d'être arrivé malgré la tempête. Ça a quand même bien été. La semaine dernière, pas celle qui vient de passer, mais la semaine d'avant, on avait une relâche à l'école. Puis ma femme et moi, on a pu partir une semaine à Cuba. Donc, ça nous a vraiment fait du bien. Puis en revenant, mon ami Damien qui me dit, « Puis Pierre-Luc, comment tu trouves le beau sable blanc du Québec? » Et j'ai dit, « Ah, c'est une belle expression, Damien, pour parler de la neige. Hein. » Donc, on était surpris par le froid en arrivant, mais ça fait... c'est pas grave, ça fait partie de notre réalité. Pendant qu'on était là-bas, à Cuba, on a pu discuter à un moment donné avec une personne, un Cubain, qui vient s'asseoir à notre table, à Bakou et moi, puis il me dit, « OK, c'est le temps... que vous appreniez de l'espagnol. » Donc là, il venait, puis il voulait nous donner des petites leçons d'espagnol. Et qu'on discute avec lui. Puis rapidement, on comprend que c'est un passionné d'histoire. Il aime l'histoire. Et il nous dit que à Cuba, à l'université, il y a 3 matières qui sont obligatoires. Peu importe le programme dans lequel qu'on est, il y a des cours de langue, des cours de maths et des cours d'histoire de Cuba. Parce qu'ils disent que c'est essentiel de bien pouvoir s'exprimer, de comprendre ce qu'on lit. Il faut être capable de réfléchir logiquement, d'être capable de calculer. Il faut connaître notre histoire. D'ici, on ne connaît pas d'où c'est qu'on vient. On n'a pas d'idée non plus où est-ce qu'on s'en va. Je dis, ah, c'est intéressant. Moi, j'aime pas l'histoire. Il y en a qui sont vraiment des passionnés d'histoire. Moi, j'en fais pas partie. C'est très, très difficile pour moi. Parce qu'on dirait que j'ai pas de repère. Il y en a, on dirait qu'ils ont une ligne du temps dans leur tête, puis on leur dit, ah, dans les années 1700, puis ils regardent, 1700, ils savent ce qui se passe. Moi, je connais ma date de naissance, je sais mon anniversaire de mariage, ça, j'ai intérêt à m'en souvenir, hein. Et je me dis, l'anniversaire de mes parents, je sais son nez quel jour et son nez avant moi. Mais sinon, mes repères, c'est très, très flou. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Mais je me disais, je suis quand même très d'accord avec ce qu'il me dit. Si on ne connaît pas notre histoire, on n'a pas une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Et alors que lui, il se concentrait vraiment sur l'histoire de son pays, moi, quand il me disait ça, je me concentrais plutôt sur l'histoire que la Bible nous raconte. La plus grande histoire, en fait, le grand récit biblique qui nous raconte tout l'univers et en même temps qui est aussi personnel. C'est-à-dire que ça reste que c'est mon histoire et c'est aussi la vôtre. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on va parler ce matin. La dernière fois que j'étais venu, je vous avais parlé par rapport au proverbe. Je ne sais pas si vous en souvenez, ça fait quand même un certain temps déjà. Et on avait vu... que la recherche de la sagesse, c'était pas quelque chose qui était optionnel. Hein, c'est quelque chose qui découle du désir, justement, de connaître Dieu. Et dernièrement, la faculté, dans mes cours, on a travaillé beaucoup sur la doctrine de la parole. Comment est-ce que Dieu se révèle, qu'il se fait connaître, et se fait connaître spécifiquement, justement, par la Bible, par sa parole. Et donc, ce que je vais faire ce matin, c'est essayer de, peut-être... vous redonner le goût, peut-être s'il y en a qui ont perdu le goût, de replonger dans la Bible. Essayer de faire du sens, vous donner des repères. Comme moi, j'ai besoin de repères. Ben de donner des repères pour arriver à bien se situer dans l'histoire que nous raconte Dieu. Et les symboles qui sont là, ce sont les étapes qu'on va voir. C'est des symboles qui sont plutôt simples, ce qui fait que même les enfants à notre école les connaissent plutôt bien. Ils disent « Ah oui, là, ça, c'est telle chose, ça, c'est telle chose. » Donc, même des jeunes de la maternelle. Hier, je travaillais un peu à la maison, puis il y avait la petite Adriana, elle regarde le X, elle dit « Ah oui, ça, c'est la grosse bêtise. Oui, ça, c'est la grosse bêtise. » Fait qu'on va regarder ça. Avant juste qu'on prenne le temps de prier avant d'aller plus loin. Alors, Seigneur, mon Dieu, merci pour déjà de nous avoir protégés sur la route. Merci pour le privilège qu'on a d'être ici, de pouvoir se rappeler notre histoire, ce que tu, de quelle façon tu te révèles à nous, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu continues à faire et tout ce que tu vas faire encore dans l'avenir. Alors, je te prie de nous éclairer et de nous émerveiller encore une fois par tout ce que tu fais, par tout ce que tu es, Seigneur Dieu. Amen. Alors, l'histoire que je vais vous raconter se passe en 6 étapes. Si je vous l'ai dit rapidement, la première, on va les voir après chacune, une à la suite de l'autre. La première, c'est la création. Ensuite, il y a la chute. Ensuite, il y a la période des promesses. Donc, tu peux rester sur l'autre en premier pour l'instant. Merci. Il va y avoir l'œuvre de Christ, ensuite la mission et finalement le retour de Christ avec la nouvelle création. Donc, tu peux mettre la deuxième, s'il te plaît. Alors, l'histoire commence par Dieu qui décide de tout créer. Dieu créa tout l'univers à partir de rien, tout ça par sa parole. Il n'y avait rien du tout et il a tout créé. Il est le grand créateur. L'univers, les étoiles, les planètes, les galaxies, la Terre, les montagnes, les vallées, les petits ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs, les mers, jusqu'à les océans. Tout ça, c'est lui qui l'a créé, même ce qu'il y a dans le fond des océans, tout ce qui y vit. Et je prends juste quelques exemples. Les plus grosses baleines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelle grosseur peut avoir une baleine dans les plus grosses, comme un autobus. Les plus grosses baleines jusqu'aux plus petites bactéries. Tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Même les bébites, les bestioles qu'on découvre, qui vivent dans le fond des océans, qu'on continue à redécouvrir, tout ça, Dieu a créé ça. Les éléments du tableau périodique, c'est Dieu qui a créé ça. Tous les atomes, est-ce qu'on réalise à quel point notre Dieu, il est grand, il est puissant? Tout ça, ça nous témoigne justement qu'il y a un créateur. Tout ce que l'on voit, mais aussi tout ce qu'on ne voit pas, la chaleur du soleil, l'air qu'on respire, les odeurs. Réalisez-vous que tellement de choses qui ont des odeurs différentes, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. La joie qu'on ressent, l'amour qu'on ressent, tout ça, ça a été créé. Tout ça nous témoigne d'un Dieu créateur. Et ça nous dit que le summum de sa création, c'était lorsqu'il a créé l'humanité, l'être humain, l'homme et la femme. Il l'a créé d'une manière spéciale en disant, je l'ai créé à notre image. On a un rôle, peut-être justement, de gouverner la création, de représenter Dieu sur terre. Et Dieu dit que tout cela était plus que bon, très bon. À chaque étape, dit tout ça, Dieu vit que cela était bon. À la toute fin, après avoir créé l'homme, il vit que tout cela était très bon. Notre Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant. Il n'y a pas plus puissant, plus intelligent, plus sage que notre Dieu. Il est plus grand que tout ce que notre imagination peut concevoir. Des fois, on dit que notre imagination est sans limite, mais c'est faux. En fait, il y a un théologien qui a dit ça, et je suis certain, c'est qui, désolé. Il disait que le fini ne peut comprendre l'infini. Ce que ça veut dire, entre autres, là, en donnant une image. Imaginez qu'on est comme une tasse, une grosse tasse, qu'on remplit avec la connaissance de Dieu. Mais que Dieu, il est comme l'océan Pacifique. On ne pourra jamais contenir l'océan Pacifique dans notre petite tasse. Nous, on est limités. Mais Dieu, il est illimité. On a un Dieu qui est incroyable. Il est merveilleux. Et il a décidé, même si on ne peut pas tout le comprendre, il a décidé de se révéler à nous pour qu'on puisse le connaître par sa parole. Donc, quel Dieu merveilleux nous avons. On a un Dieu qui est créateur. Première étape. Regardez la deuxième, s'il te plaît, Carl. La chute. Alors malheureusement, l'être humain s'est rebellé. L'être humain s'est rebellé contre son Dieu. Lorsqu'il était dans le jardin, il a été tenté par le diable et il a cru un mensonge. En fait, le diable est venu et il leur a dit que Dieu est un menteur. Il dit, ah, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il dit, pas du tout. Non, c'est pas ça qui va se passer. Et l'être humain, malheureusement, a accepté de croire le mensonge. Il a cru le menteur. Il a préféré croire le diable plutôt que croire Dieu. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est comme ça que la mort est arrivée et que tout le mal vient de là. Et qu'à partir de ce moment-là, l'être humain a été séparé de Dieu. C'est dit dans Genèse 3, 17, que la terre est maudite maintenant. Elle est maudite. Pardon, on dit maudite ou maudit? Je ne suis pas certain. Hein? Ouais, maudite. Donc, la terre sera maudite à cause de toi. Toute la création a été affectée par le mal. Dans Romains 5, je lis un certain, juste un passage. Romains 5, 12, ça va nous dire, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. » La création qui était parfaite est maintenant tachée, est maintenant souillée. Je réfléchissais à ça avec ma femme cette semaine. Puis déjà, quand on regarde la création, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est fou, tous les détails. Tu sais, les fruits, par exemple. On a des fruits de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les couleurs. On a avec des pics, on a des... que c'est poilu, on a que c'est lisse. On a toutes sortes de fruits, tu sais. Imaginez comment que c'était avant la chute. Imaginez comment que ce sera après. C'est, on n'arrive même pas à imaginer qu'est-ce que c'est le monde sans le péché. Parce que nous, on a grandi plus tard dans cette histoire-là. On va aller au troisième point. Ça marche. Les promesses. Mais Dieu, dans sa grande bonté et sa miséricorde, y avait décidé d'un plan pour nous secourir. Déjà, lorsque Dieu a maudit le serpent dans le jardin, on voit un premier indice. Il va dire, « Je mettrai de l'hostilité entre toi, » donc il parlait au diable, « entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Par la descendance de la femme, le diable sera vaincu. On a déjà cet indice-là qui est donné. Dieu ne va pas abandonner sa création. Et il va décider de pourvoir, il va avoir miséricorde, il va avoir compassion envers nous. On fait une petite avance rapide dans l'histoire, parce que cette partie-là, si vous comprenez bien, des promesses, c'est à partir de Genèse, chapitre 4, chapitre, ouais, mettons à peu près à chapitre 4, jusqu'au Nouveau Testament. Donc c'est une longue période quand même. Qu'on va couvrir très rapidement, juste pour avoir des repères, en fait. Dieu se choisit un homme, Abraham, et lui fait des promesses. Il dit, « Je vais être ton Dieu, je vais faire de toi une grande nation. Je vais te donner un pays, je vais être ton Dieu. » Il dit que toutes les nations de la terre vont être bénies à travers elle, à travers sa descendance. Et cet homme-là, ben, vous connaissez l'histoire, hein? Il était déjà vieux, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'avait pas eu d'enfant. Mais quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Et ça n'a pas été un problème pour Dieu de respecter sa promesse. Et à partir de lui, Abraham, puis avoir Isaac, même situation encore, mais il a pu avoir Jacob qui va être renommé par Dieu plus tard Israël, Jacob qui a pu avoir 12 fils. On est encore loin d'une grande nation. Et un jour, ce clan-là, il était dans la famine et ils ont dû aller se réfugier en Égypte. Et Dieu, il avait prévu le coup. Il avait permis qu'un de ses fils se retrouve à être à la tête de l'Égypte pour les accueillir. Et ce petit clan-là, encore une petite famille, a pu se développer et se multiplier là pendant 400 ans. Jusqu'à ce que Dieu envoie un autre homme, Moïse, pour sortir son peuple, faire une alliance avec eux. On dit, maintenant, je vous sors de l'Égypte par toute l'histoire que vous connaissez avec les 10 plaies d'Égypte. De manière incroyable, Dieu montre sa force et les sort de là pour les amener dans un pays qu'il leur donne en héritage. Par Josué, ils vont conquérir le monde, pas le monde, excusez, le territoire. Ils vont prendre possession de ce territoire-là. Et Dieu va leur envoyer David comme roi pour les gouverner, un homme selon le cœur de Dieu. Et David va avoir un fils, Salomon, qui a la sagesse que Dieu lui a donnée, qui va construire le temple. Et là, on semble être arrivé au summum de l'histoire, où là, Dieu a vraiment un peuple. Ils ont un territoire et Dieu habite parmi eux. On se dit, wow, ça y est, le problème est réglé. Le problème de la chute est réglé, mais non. Parce que peu de temps après, on voit à quel point le problème était profond au niveau du cœur. Et même Salomon se détourne, tombe dans l'idolâtrie. Les royaumes sont divisés. Le nord est séparé du sud. Et puis éventuellement, ils sont même coupables de des crimes que les nations autour ne commettaient même pas. Ils sont devenus pires que les autres. Et Dieu a dû les punir. Ils sont partis en exil. Et c'est là que Dieu envoie, encore une fois, des prophètes pour leur dire, « Je ne vous ai pas oublié. » On voit à quel point la faute, le mal, le péché était profond et que même ceux qui avaient cette relation-là avec Dieu, ils se sont finalement détournés. Et on voit la fidélité de Dieu. Et un des passages que j'aimerais voir par rapport aux prophètes que Dieu a envoyés pour encourager son peuple et pour leur rappeler justement sa fidélité, c'est dans Ézéchiel. J'aurais pu choisir quand même plusieurs passages dans les prophètes, mais c'est un passage que j'affectionne particulièrement dans Ézéchiel 34, au verset 11. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue. » Un peu plus loin, verset 15, « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui ferai coucher les bêtes. » Déclaration du Seigneur Dieu. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Le prophète Ézéchiel annonce ce message-là alors que le peuple est en exil, était déporté. Et une des premières visions qu'Ézéchiel va avoir, c'est qu'il va voir la gloire de Dieu quitter le temple de Jérusalem pour les accompagner, eux, là où ils sont. Et c'est vraiment fort ce que Dieu va faire dans toute cette période-là qui va leur dire, « Je ne vous ai pas abandonné, je vais venir prendre soin de vous. » Et un peu plus loin, là, je ne l'ai pas lu aussi, dans Ézéchiel 36, il va dire qu'il va donner un cœur nouveau. C'est un passage qui est assez connu. Il dit, « Je vais changer votre cœur de pierre pour un cœur de chair. Je vais mettre mon esprit à l'intérieur de vous pour que vous puissiez obéir à mes lois. » En fait, il est en train de dire que le gros problème, qui est un problème aussi au niveau du cœur, Dieu va le régler. C'est lui qui va le régler. Et donc, Dieu accompagne son peuple, même dans l'exil, et va faire continuer à leur promettre qu'il va prendre soin d'eux. Et ça nous amène à l'œuvre de Jésus-Christ. Christ est venu, le Dieu, le Fils, s'est incarné pour devenir un être humain, accomplissant la promesse qui était faite, « Je viendrai moi-même prendre soin de vous. » Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu apporter la lumière. Jean nous dit qu'il est lui-même la lumière, la vérité. Il enseignait, il corrigeait, il révélait Dieu le Père. Il était plein de compassion pour les gens qui étaient inconsidérés. Il guérissait les malades sans donner de médicaments, parfois juste en les touchant, d'autres fois juste par la parole. Par sa parole, il chassait les démons. Par sa parole, il libérait les captifs. Par sa parole, il calmait la tempête. Par sa parole, il pardonnait les péchés, alors que seulement Dieu peut le faire, montrant qu'il était lui-même Dieu. Jésus était tellement plein d'amour, je ne devrais pas dire était, Jésus est tellement plein d'amour et rempli de compassion qu'il a même remarqué les quelques sous que la pauvre veuve a donné en offrande à Dieu dans le temple. J'ai cette image-là, je pense que c'est dans un des films de Jésus que j'ai vu quand j'étais jeune, là, cette pauvre madame courbée qui vient et qui dépose quelques sous de rien. Puis Dieu le voit. Jésus le voit, le considère et va honorer cette femme-là. Ce qui fait que même 2000 ans plus tard, on en parle encore. Et pourtant, ça n'a pas été un gros montant. C'est l'inverse. Il est en train de montrer que ce qui est le plus précieux, c'est la confiance en Dieu. C'est ça qui vaut plus que l'argent qu'on peut donner. Et ça, je me dis, waouh, ça c'est un encouragement. Hein? Dieu voit chacun des petits sacrifices qu'on fait. Chaque fois qu'on lui fait confiance, il le voit. Jésus, tellement plein de compassion, qu'à un moment donné, avec ses disciples, il va juste dire, OK, on traverse le lac parce qu'il y a un gars de l'autre côté qui a besoin de moi. Il va traverser le lac, et c'est là qu'il y a toute la tempête à un moment donné. Vous connaissez l'histoire, mais il arrive de l'autre bord, et puis il y a un homme complètement perdu, possédé par une légion de démons. Le gars, il vit parmi les tombeaux. Il est rejeté des siens. Il vit comme un animal. Il hurle, il se blesse avec des roches. Le gars, il est complètement captif. Et Dieu vient pour le délivrer. Et je lisais cette histoire-là la semaine dernière et j'étais ému. Ça m'a vraiment touché. Et surtout ce que Jésus va lui dire à la fin. Quand cet homme-là, qui a retrouvé son esprit, qui a retrouvé toute sa personne, il va demander à Jésus, « Est-ce que je peux t'accompagner? » Et Jésus va lui dire, il dit non. Va-t'en chez toi, auprès des tiens. Et déjà, juste ça, c'est de le rétablir comme un être humain. Tu ne vas plus vivre comme un animal. Hein? Tu n'es plus possédé. Il dit, va auprès des tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu compassion de toi. Moi, juste cette phrase-là, raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu compassion de toi. Je me dis, mais ça, moi aussi, je dois faire ça. Raconter tout ce que Dieu a fait pour moi. Sa compassion qu'il a eu envers moi. Jésus, dans son grand amour pour nous et son obéissance envers Dieu, le Père, il va accomplir la justice de Dieu sur la croix. Il a pris sur lui notre faute. Il a subi la conséquence à notre place. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie et qu'on soit réconciliés avec Dieu. Dieu avait promis qu'il allait régler ce problème-là. Notre faute. Et il est venu pour le faire. 3 jours après sa mort, Dieu le Père a ressuscité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est notre Dieu et notre Sauveur, notre Créateur et notre Sauveur. Et il est venu avoir compassion de nous pour nous sauver. L'étape suivante, la mission. On pourrait penser que l'histoire se termine là parce que Christ, il est venu pour nous sauver, il a payé à notre place, il a été ressuscité. Mais maintenant, avant de remonter, avant de partir au ciel, Jésus nous donne une mission. Il va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il donne comme mission de raconter justement cette histoire-là. Comment est-ce que Dieu a tout créé? Comment est-ce que l'homme s'est rebellé contre lui? Comment est-ce que Dieu a pourvu et qui a promis qu'il allait venir nous sauver? Comment est-ce qu'il est venu nous sauver? Maintenant, on est là. Nous sommes ici, à cette étape de l'histoire. Quand vous regardez un plan, des fois, pour vous retrouver, vous essayez de voir la petite... vous êtes ici. Vous êtes ici. Nous sommes là. Cette histoire, c'est aussi la nôtre. Donc, allez et racontez tout ce que Dieu a fait pour vous. Comment il a eu compassion de vous. Je reprends un texte que j'avais étudié avec vous il y a pendant plusieurs mois. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Qui nous parlait de notre vocation en tant que peuple de Dieu. Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Voici la mission que notre Sauveur nous a donnée, de raconter ce qu'il a fait. On a un grand Dieu, Créateur et Sauveur. Il nous demande de raconter tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va continuer de faire. Ce qui est vraiment bien pour nous, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. Au début, je vous disais, mon ami cubain, si on sait de où est-ce qu'on va, si on connaît notre histoire, ça nous donne une idée de où est-ce qu'on va. Et nous, c'est pas juste une idée qu'on aurait déduite du passé, mais Dieu va nous dire clairement qu'est-ce qui s'en vient. Et c'est le sujet, si je ne me trompe pas, que vous avez étudié beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes encore dans l'Apocalypse. Donc, vous avez étudié ce sujet-là quand même en profondeur. Et on a la dernière étape. Le retour de Christ et la nouvelle création. Parfois, on me demandait, mais pourquoi la flèche est vers le bas? Pourquoi ça devrait être vers le haut? On s'en va tous au ciel. En fait, ce qu'on attend, c'est le retour de Christ. Que lui, il va aussi créer une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle création. Christ va revenir et il va juger le monde. Le mal sera complètement disparu. Ceux qui auront été rebelles à Dieu vont être condamnés pour l'éternité, tandis que tous ceux qui auront mis leur espérance en Jésus-Christ, le Dieu Fils, seront éternellement bénis. Ça nous dit qu'il n'y aura plus de larmes. Plus de maladies, en sera fini du mal, des douleurs, de la tristesse, de la mort. Il n'y aura plus de honte. C'est tellement dur à imaginer. Plus de honte. Dieu habitera avec son peuple. La création qui avait été maudite sera à nouveau bénie. Voilà ce qui nous attend. Ou plutôt, voilà qui nous attendons. On attend que Christ revienne. Nous attendons Jésus-Christ qui reviendra dans la gloire pour rétablir toutes choses. Donc, si vous avez terminé la semaine dernière, vous avez vu le dernier passage. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. On est dans l'attente du retour de notre roi qui va venir pour régner. Alors voilà notre histoire, voilà votre histoire. Comment Dieu nous a aimés malgré nos fautes, comment est-ce qu'il nous a sauvés par son Fils. Et pendant que nous sommes dans l'attente de son retour, il nous a donné une mission et c'est là qu'on est. De raconter tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait dans le passé, tout ce qu'il continue à faire maintenant. et surtout de raconter ce qui s'en vient pour que les gens ne se perdent plus. Et je prends le temps de relire ce passage dans Marc, ce que Jésus a dit à cet homme qui venait d'être délivré. « Va-t'en chez toi auprès des tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Ce n'est pas seulement notre histoire personnelle avec notre date de naissance et là où on est rendu, mais c'est tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Ce qu'il a fait dans le passé, il l'a aussi fait pour nous. C'est notre histoire. Ma prière, c'est qu'on soit de plus en plus émerveillés par tout ce que Dieu a fait pour nous. J'espère que ces repères-là vont vous donner le goût, peut-être, d'étudier la parole et d'approfondir chacune de ces étapes pour avoir une meilleure compréhension de l'œuvre que Dieu a fait pour nous, pour qu'on puisse être des témoins fidèles. Qu'on n'ait pas honte de raconter cette histoire-là, parce que c'est la nôtre, et ça nous montre qu'on a un Dieu grand, puissant, qui nous aime, créateur de toutes choses, qui n'a pas abandonné sa création, et ça nous rappelle aussi que tout le mal qu'on peut voir, il y a une fin à ça. Il va y avoir la justice qui va être là. Alors, je vais terminer comme ça. Prendre le temps de prier. Alors, mon Dieu, merci vraiment pour qui tu es. Merci parce que tu as décidé de te faire connaître à nous. Tu n'es pas un Dieu lointain. Mais tu nous parles. Et tu as eu compassion de nous. Seigneur, tu nous montres, tu nous racontes notre histoire. Et ce qui est fabuleux, c'est que tu nous intègres aussi dans cette histoire-là. Seigneur, tu nous as donné une mission, tu nous as donné un but, des commandements de raconter tes hauts faits, de raconter ce que tu as fait, de raconter l'œuvre de ton Fils qui est venu pour nous sauver. Seigneur Dieu, merci pour la croix. Merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Et apprends-nous à être des témoins fidèles pour qu'on puisse raconter fidèlement tout ce que tu as fait pour nous, la compassion que tu as eue pour nous. Et donne-nous cette soif de te connaître de mieux en mieux, de plus en plus, mon Dieu. Je prie pour chacun des gens ici, dans cette église. Bénis-les, donne-leur une soif de ta parole, mon Dieu. Et merci parce que tu l'as dit. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as envoyé ton esprit qui vit en nous et qui nous dirige. Alors merci encore une fois, mon Dieu. Amen.